Bienvenue dans Microferme, le podcast qui donne la parole aux paysans et paysannes d'aujourd'hui et de demain. Salut Martin.
Salut.
Tu es maraîcher en cours d'installation à Folletombe dans le Namurois.
Ouais.
Tu es pour l'instant en développement sur un projet qui s'appelle la ferme des 7 liards.
Tout à fait.
Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Voilà, je m'appelle Martin en effet. Donc, je fais quelques années de menuiserie, j'en ai eu marre, j'avais envie de rentrer à la campagne. Du coup, je suis rentré dans le Namurois et j'ai commencé à me former en 2015.
Mm-hmm. Tu t'es formé en
formation à l'EPI, l'école paysanne indépendante. Donc, première formation de 3 mois qui permettait de voir un peu comment ça se passait et un peu les béaba du métier. Donc suite à ça, j'ai continué avec une formation au CRAB un peu plus professionnalisante qui a duré donc de septembre 2015 à avril 2017. Donc une série de stages que j'ai choisi en fonction de mes envies et du projet que j'allais mettre en place. Donc au début, j'ai fait un stage dans les champignons, puisque j'ai envie de diversifier les activités à la ferme. Donc je me suis formé 6 mois chez Benoît Roche, je ne sais pas si tu connais.
À Jean Blousse.
Ouais, donc génial. Surtout que lui était en cours d'installation aussi, donc il a fallu créer un peu son truc aussi avec lui. Donc j'ai appris plein de choses, évidemment.
Ouais, c'est toujours bien de voir ça aussi.
Voilà. Et puis, moi je me voyais dans la petite surface. Vraiment la petite surface en maraîchage. Donc j'étais chez Bramtax, qui il travaille sur Trentard. Et donc c'est là que je peux plus voir le vrai maraîchage. Et puis troisième stage, donc au Grand Potager. Et Grand Potager, c'est plutôt une ferme très intensive, très petite mais très intensive. Avec les moyens au début qui sont assez hallucinants, puisqu'ils ont un gros bâtiment d'exploitation. Voilà, ils ont un puits, ils ont des serres énormes, ils ont donc ça tourne très très bien, mais voilà, ils ont mis...
Et c'est où ça exactement ?
Donc ça c'est Altine, donc c'est dans le village ici à côté.
Ok.
Et bon, ils ont des connaissances incroyables, vous savez. Faut aller voir ça.
C'est enrichissant. Alors Martin, ton terrain, tu m'as dit que tu l'avais acheté.
Donc achat début 2016, première plantation aussi, mais sur... un petit potager pour moi, donc en gros 20 mètres carrés. Puis j'ai développé un petit peu au fur et à mesure des années. L'année suivante, j'avais 400 mètres carrés plus ou moins maximum.
Ok. Là, tu es encore toujours dans cette démarche de faire l'installation.
D'agrandir à son aise, ouais.
Ok.
Donc l'année passée, j'ai fait une saison sur 1000 mètres carrés, un peu plus avec le premier tunnel. Et cette année, on devrait passer sur 2000 plus ou moins.
2000, ok. Voilà. Et qu'est-ce qui guide ton choix de faire cette installation progressive ?
Y a le financier déjà, parce que j'ai pas envie de courir non plus. Donc je fais peu d'investissements ou des petits investissements au fur et à mesure. Quoi. Donc, et puis ça s'entraîner aussi parce que je ne suis pas un professionnel encore. Donc faire des erreurs et apprendre.
Ok. Et du coup, ça te donne l'occasion de bien apprivoiser le terrain, regarder le microclimat.
Tout à fait. Donc ici, il y a beaucoup d'eau, comme on a pu le voir tout à l'heure.
Ouais, t'es en zone humide, tu me disais.
Il y a une partie en zone humide, oui. Donc j'ai des petits marécages et j'ai de l'eau environ 6 mois par an, on va dire, sur une partie du terrain.
Ok.
Mais ce qui me permet aussi, du coup, d'avoir de l'eau pour les légumes, si j'arrive à la stocker, quoi.
Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'aménagement du terrain par la suite
Alors j'y ai beaucoup réfléchi, et donc j'ai fait des plans, et on va dire que tous les 6 mois les plans changent, selon ce qui se passe sur le terrain. Donc,
d'où l'intérêt de le faire progressivement.
Si j'ai une grosse pluie et que je me rends compte qu'il se passe un truc quelque part, ben, je change, et puis il fait sec, alors je change, et puis donc voilà, ça change tout le temps, et donc c'est un peu dur de... Allez, de garder ses plans du début à la fin, mais j'imagine qu'un jour ça va se fixer.
Ok. Comment ça se passe pour l'eau alors ? Donc, la moitié de l'année, tu as beaucoup d'eau.
J'ai énormément d'eau, oui. Donc, le but, c'est, comme le terrain est légèrement en pente, c'est de partir du haut avec des bassins. et d'essayer de la faire redescendre au fur et à mesure jusqu'aux légumes qui sont tout en bas.
Ok.
Donc, profiter de cette eau en hiver, la stocker et la réutiliser en été, quoi.
Ouais.
Donc, j'ai pas envie de fonctionner avec de l'eau du réseau, ni d'aller faire un puits qui descend à 40 mètres et de vider la nappe, quoi.
Ouais,
Donc,
je
c'est aussi
comprends.
cette volonté-là avant tout qui est de.
Mais ça, c'est bien, c'est aussi propre à ton terrain
Ouais,
d'avoir
tout à
cette
fait,
eau
ouais.
disponible.
Tout le monde peut pas se permettre ça, quoi.
Tu sais déjà plus ou moins quelle quantité d'eau tu aurais besoin pour les 2000
À
mètres carrés?
terme, pour les 2000, je sais pas, mais à terme, j'aimerais avoir plus ou moins 60 mètres cubes.
60 mètres cubes
Voilà, de
de
stock, hein. Donc, ce
stock.
qui veut dire que pendant une partie de la saison, je peux encore récupérer de l'eau, vu qu'à partir de début octobre, j'ai avoir de l'eau dans mon sol. Puis il va falloir beaucoup de temps avant que le stock se vide. Donc, je peux arroser à partir de mai. Enfin, j'ai de l'eau jusqu'en mai sur le terrain. Puis, il faut un peu le temps avant que ça sèche. Et à partir de ce moment-là, commencer à utiliser l'eau des stocks, quoi.
Ok.
Donc, je pense qu'avec 60 mètres cubes, on arrivera à faire 3-4 000 mètres carrés, quoi.
Ok. Vendre à la ferme et tu penses à d'autres façons de commercialiser?
Ça dépendra de mes besoins en termes de
Ouais.
commercialisation. Mais donc, il y a une coopérative dans le coin si j'ai besoin. Et je peux faire des ventes aussi à la chèvrerie du village à côté si j'ai envie.
Ok.
Voilà.
C'était déjà un accord avec eux.
Ouais.
Et comment est-ce qu'on s'y prend alors pour se faire une clientèle quand on commence à vendre des légumes à la ferme? Ça, c'est la grosse question
Si
que je
on
me
commence
pose.
comme moi. C'est-à-dire avec les surplus de mon potager, on peut pas faire de pub, donc c'est le bouche à oreille, quoi. Donc là, j'ai que ça pour le moment, je peux pas commencer à aller crier sur tous les toits que je vends des légumes, donc
Ouais,
ça se
évidemment.
fait beaucoup de bouche à oreille et ça fonctionne très bien en fait, c'est juste qu'il faut un peu plus de temps. Mais bon,
Tu
là,
t'es
j'ai la
retrouvé
chance,
avec
quoi.
beaucoup de surplus au début que t'arrivais pas à vendre ou...
Non, parce que les surfaces étaient petites, donc ça permet d'avoir le. Ça
Tout
avance
ça
avec le
vraiment
temps, quoi.
tout
Puis
doucement.
on a eu 2 années de sécheresse, donc très peu de légumes
Ça a
finalement
limité
sur les
ta
surfaces,
production.
quoi. Ouais. Sans eau, puisque je n'avais pas d'eau jusque-là.
Ouais.
Pas de stock.
Et l'année prochaine, alors tu vas un peu professionnaliser et donc vraiment tu vas t'inscrire donc comme entreprise.
Ouais.
Comment t'as déjà un plan d'action ou tu vas compter sur tes clients existants pour un peu enfin avec le
Bah, à
nouveau le
ce
bouche à
moment-là, je
oreille?
vais commencer à faire de la pub, un petit peu quand même. Après,
T'as quelque chose de...
j'ai déjà une base de clientèle, hein.
Ouais.
Donc, c'est quand même relativement plus simple. Je vais pas commencer avec des annonces à gauche à droite, ça va être un petit mot dans les boîtes aux lettres et juste prévenir déjà que je suis là, quoi.
Alors, j'aimerais aborder le point de l'ouverture du sol et la préparation du sol.
Ouais.
Enfin, tu pourrais peut-être expliquer alors les précédents
Ouais.
du terrain.
Les précédents du terrain, bah, c'est une prairie qui a été un peu abandonnée. Donc il y a une partie qui est fauchée et la partie où je cultive qui n'a plus été ni travaillée ni fauchée depuis un certain temps.
C'était la broussaille quand t'as démarré.
Complètement, ouais. Donc première année, j'ai désherbé à la main. Ça prend beaucoup de temps et c'est pas très efficace. Et puis je me suis payé des bâches, donc des bâches d'ensilage que j'ai percées.
Tu les as achetées neuves?
Ouais. Après là pour le moment je commence à pouvoir les récupérer chez des agriculteurs du coin. Donc c'est vite, après c'est pas très cher une balle d'ensilage, donc c'est pas gênant de les acheter. Puis c'est quand même plus pratique d'avoir des grandes surfaces que des petits morceaux qui traînent à
Dans
gauche à
son
droite,
meilleur
quoi.
état.
Ouais. Mais bon, ça s'use assez vite aussi, hein, donc là ça fait 3 ans et commence à y avoir des déchirures, des trucs comme ça, quoi.
Ok. Et j'ai vu qu'il y avait des petites routes dans...
Ouais,
Tu
ça
sais,
laisse
c'est...
passer l'air et l'eau, simplement. Après, c'est pas obligatoire comme on en a parlé tout à l'heure. Mais voilà,
Tu penses
ça
que
me
c'est
paraissait
mieux pour le
logique. Ouais,
sol?
ça me
Ouais.
paraissait logique. Ouais.
C'est vrai que ça a du
Plutôt qu'une
sens.
grande surface complètement où il n'y a rien qui passe, ça me paraît pas très sensé, quoi.
Et donc ces bâches, tu les utilises aussi pour ressuyer ton sol plus rapidement?
Ouais, complètement. Donc j'arrive à avoir un sol prêt quasiment un mois plus tôt, je crois. Donc le sol est carrément plus chaud, comme j'ai beaucoup d'eau, bah il est beaucoup plus sec aussi. Donc c'est un bel avantage en fait, ces bâches noires qui chauffent le sol bien avant l'heure, quoi.
Donc un mois plus tôt, normalement, t'estimes que le sol est prêt
Bon, ça dépend de la
au
saison,
moins...
hein,
Ouais.
mais l'année passée j'étais prêt début mars, quoi.
Ouais, c'est...
Enfin, le sol était prêt début mars, après le reste, ce qui n'était pas bâché n'était pas prêt, quoi. Clairement.
Ok.
Donc ça va plutôt être avril à mon avis pour le reste du terrain.
Donc ça me permet de faire tous mes premiers semis à l'avant, enfin au bon moment finalement. Et le reste, le reste après c'est bon.
Et donc pour démarrer, t'as bâché la prairie, tu l'as débâché, après ça t'es repassé avec des outils ou t'as planté tel quel dedans?
Donc l'année passée, ce que j'ai fait, j'ai débâché. J'avais déjà bâché l'année d'avant. Donc j'avais déjà passé un coup de grelinette. Et puis j'ai rebâché pour l'hiver. J'ai attendu le début de la saison et j'ai débâché, quoi. Et à ce moment-là, je suis passé au motoculteur et un coup de fraise et ça donne un résultat parfait. Après cette année, justement, je vais faire des tests où je ne passe qu'à la grelinette pour les repiquages en tout cas. Et donc il y a juste un coup de grelinette et un repiquage direct, quoi.
Ok, tu penses que le sol sera déjà assez chaud aussi? Parce que la fraise, si je me trompe pas, ça réchauffe aussi un peu le sol en remettant de l'air dedans.
Ouais. Avec les bas, je crois que ça va aller.
Ça le suffit.
Ouais.
Ok. Et ta fertilité, comment est-ce que tu la gères? Là, t'as démarré d'une prairie, donc
Ouais, donc j'ai pour le moment,
t'as
j'ai
pas fait
rien.
d'apport.
J'ai complètement rien en fertilité. Enfin, dans le sens où je ne fertilise pas. Mais le but à terme, ça va être paillage beaucoup. Et puis le reste des couches chaudes, donc du fumier de cheval.
Tu vas utiliser que du purement organique.
Ouais.
Et les mauvaises herbes, l'année passée, tu disais que comme il a fait très sec, évidemment, t'en as pas eu beaucoup.
Ouais, après je laisse quand même s'enherber, donc
Ouais.
c'est un choix. Ça permet de pas passer trop de temps à désherber d'un côté, ça couvre le sol de l'autre, et voilà, je trouve ça plus joli aussi finalement qu'un terrain complètement nu. Et ça n'empêche pas du tout les légumes de pousser, donc je me prends pas la tête avec ça, quoi.
C'est lesquels que tu as vu le plus sur ton ancienne prairie?
J'ai des zones à liseron.
Aïe,
Le
dommage.
chien dent, ça va, ça part tout seul. Sinon, c'est beaucoup de trèfle qui repousse en fait.
Ok.
Beaucoup de trèfle, un peu de galets. Et. Ouais, c'est le. Ouais, le plantain aussi. Voilà, c'est tout.
Le chien dent, ça part tout seul
Avec les bâches,
même.
ouais.
Ah ouais.
Ça, c'est. Il fait pas le malin après une bâche, quoi.
Ok.
Par contre, le liseron, lui. C'est pas une année de bâche qui va le déranger, quoi.
Ok. Et t'as une stratégie alors
Pour le liseron, non.
Pas encore.
Je crois pas qu'il y en ait une, hein, mais. Ça va être désherbage à la main, quoi.
Ouais.
Parce que je désherbe beaucoup à la main. Je fais très peu d'outils, je pense pas que ça marche super bien.
Ouais.
Donc très peu de binage aussi, quoi.
C'est l'avantage des petites surfaces aussi, hein,
Voilà. Et puis
sûr.
bon, le désherbage est quand même vachement plus propre à la main, quoi.
C'est plus
Et puis
régulier.
parfois je sélectionne aussi mes mauvaises herbes. Je veux pas laisser des fleurs, laisser des trucs comme ça, quoi.
Alors, toi, t'as des serres aussi. T'as acheté une serre de. C'était quelle surface encore?
200 mètres carrés.
200 mètres carrés.
Donc c'est 8 mètres sur 20, plus ou moins.
Ok.
C'est un peu plus. C'est 8 mètres 50 sur 22 mètres 50 exactement. Donc c'est une serre d'occasion qui servait de salle des fêtes avant. Et donc bah, on l'a remontée et c'est reparti, quoi.
La bâche aussi, la bâche, tu l'as acheté d'occasion
Non,
aussi?
la bâche c'est neuf.
Neuf.
Voilà, c'est ce qui a presque coûté le plus cher finalement. Voilà, on a fait les portes nous-mêmes.
Et ça te satisfait comme surface ou tu penses que tu aurais besoin
Non, j'ai
peut-être
besoin de plus, ouais.
de plus?
Ouais. Bah,
T'as un
ça
objectif
va
en
dépendre
tête?
avec la. Avec les ventes, évidemment,
Ouais.
ça va jouer. Donc au fur et à mesure que je vais avancer sur ma surface, bah, il va falloir plus de serre, hein, c'est pas compliqué. Au final, je ne sais pas exactement combien il faudra, mais je crois qu'il faut au moins 400 mètres carrés, ouais.
400 mètres carrés,
Minimum, oui.
donc ça
Donc quand même
fait
un
à
peu
peu
plus.
près 20% de ta surface cultivée.
Un peu
Un peu
moins.
moins.
Ouais, parce que le but c'est d'arriver à 3-4 000 mètres, mais je crois que pour 3 000 mètres carrés, je pense que 400 mètres carrés sont suffisants en serre. Et comme le but c'est d'être à plusieurs sur le maraîchage, il faudra augmenter à mon avis la surface de serre aussi.
Ok. Ta pépinière, tu l'as autoconstruite?
Oui, donc c'est une serre en bois qui est aussi bâchée. Tout le monde se sent bien dans cette serre et donc c'est un chouette endroit pour travailler et on s'y sent super bien quoi. Donc le but à terme c'est aussi de construire une bonne partie des tunnels en bois quoi.
Sur le même modèle.
Ouais. Bon, modifié évidemment pour qu'il soit encore mieux. Mais ouais, c'est.
Et donc c'est elles sont portées par des piquets en bois de sapin
Ouais, tout est en bois.
qui
Y a pas
sont
de.
donc sur du gravier.
Posé sur des plots en gravier, on va dire, ouais.
Et puis la bâche est enterrée.
La bâche est enterrée, ce qui tient toute la serre finalement.
Ok.
Après, toute la structure en bois est protégée par des bouts de bâche, ce qui évite
Ouais.
que la bâche qui est au-dessus ne s'abîme sur le bois, quoi. Donc voilà, c'est ce qui fait que la
Ok.
bâche tient, quoi. Dans le temps.
Et donc ça aussi, tu vas essayer alors de construire des serres
Des
sur le
tunnels,
même modèle,
ouais.
des tunnels.
Donc là, elle fait 5 mètres de large sur 10 mètres la pépinière. Donc le but, ça va être de garder ces 5 mètres, voire passer un peu plus large et partir sur 20 mètres de long. Vu que toutes mes planches font 20 mètres sur le terrain.
Ouais.
Voilà.
Ça simplifie la
Ce qui
chose.
est logique finalement.
En effet. Quel avantage est-ce que tu vois à autoconstruire ces tunnels plutôt
Bon.
que d'en acheter
C'est plus un plaisir déjà de le faire.
Ouais.
Bah c'est le fait de se sentir bien là où on travaille aussi. Je crois que c'est super important. Et puis bah
Puis
voilà,
les bords sont
c'est du
droits.
bois, ouais, j'arrive à faire des bords droits de 2 mètres de haut, ça c'est super pratique aussi. Voilà, c'est pas du métal.
T'as pas
C'est.
estimé les coûts par hasard
Non, on n'a pas
pour.
encore fait de. Parce que là j'ai fait pour la pépinière et une partie de récup. Donc
Ouais.
j'ai pas pu estimer le coût sur 10 mètres. Mais on a un nouveau modèle en construction là, avec Thomas. Et donc
Ok.
voilà. On a
Thomas, donc
déjà pensé à
c'est.
plusieurs. C'est le futur co-aidant à la ferme
Ok.
qui va
Et
s'installer
peut-être
avec moi un
associé.
jour, quoi, ouais.
Ok. Et donc ça, c'est là qu'on voit les avantages d'avoir été menuisier avant.
C'est ça, ouais. C'est plus facile pour faire des serres en bois. Après, il a fallu. Enfin, c'est pas ma première serre en bois, donc j'ai fait des grosses erreurs sur la première. Du genre agrafer la bâche, ce qui est une très mauvaise idée. Donc il a fallu que je voie des tunnels, on va dire, en métal avant de piger un peu comment je pouvais le faire en bois, quoi. Mais c'est accessible à tout le monde cette serre, c'est ça qui est chouette aussi, quoi. Tout le monde peut la construire, c'est pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, quoi. La première, j'ai fait sans machine, donc. Toutes les coupes ont été faites à la main à la scie, et il faut juste une visseuse, quoi.
Ça demande beaucoup de précision dans ton
Non, du
travail et
tout,
dans les
du
coupes.
tout, du
Ça, c'est
tout.
bien
C'est
alors.
pas
Ça
mon.
permet d'aller vite.
Vite, ça dépend, j'aime pas travailler vite, donc non, mais.
Ouais.
Mais ça va pas, ça prend pas beaucoup de temps, non.
Quelles sont tes perspectives? Donc tu parlais déjà d'un agrandissement de la surface. Est-ce que tu as d'autres projets par la
Oui, il y a
suite?
beaucoup de projets ici. Alors moi, j'ai beaucoup d'idées, donc je pense à beaucoup de choses. Il y a un verger, il y a les poules pondeuses, les poules de chair, les champignons. Ce serait bien d'avoir un
Ça va être beau.
rucher. Voilà, il y a encore plein d'autres idées si vraiment il faut, mais.
Et donc les poules, ça tu m'avais dit que tu voulais faire des poulaillers mobiles.
Ouais, autant pour les pondeuses que pour les poules de chair.
Ok.
Les poules de chair, elles ont moins besoin d'un poulailler pour dormir, vu qu'elles restent que quelques mois. Donc c'est plus une grande cage mobile, mais du coup qui bouge tous les jours. Et pour les poules pondeuses, je ferai un grand poulailler mobile avec un enclos. Et là, elles restent plusieurs semaines au même endroit, quoi.
Et pourquoi ces choix-là et pas des moutons ou d'autres cultures?
Pourquoi les poules? Bah pour la production d'œufs et de chair. Le
Ok.
mouton, voilà, c'est bien pour désherber, mais je vais pas pouvoir vendre mes moutons, quoi. Je
Ouais,
peux
tu
vendre
penses
de
que c'est pas
l'agneau,
par la
mais ça.
facile commercialisation.
Ouais. Et puis ça demande moins de surface aussi.
Tu m'avais dit qu'éventuellement, alors elle serait. Elle pâturerait le verger.
Elles vont pâturer les cultures et le verger, donc l'entièreté du terrain, quoi.
Donc ce serait aussi une double utilisation
Ah oui, complètement.
de la surface et donc ce serait aussi une belle
Ouais,
optimisation
ça
alors.
permet de désherber aussi. Voilà, ça a un double, triple effet même, fertilisation, voilà. Ça sert à
Chouette.
tous les poules.
Est-ce que si tu devais déjà retourner dans le passé, il y a des choses que tu ferais différemment?
Je bâcherais dès le début, plutôt que d'essayer de
Toute la
désherber à la
surface
main.
ou.
Non, non, non. À la base, je voulais labourer, moi.
Ok.
Puis je trouvais. Enfin, finalement, je me suis dit, c'est pas une bonne idée. Donc, je suis parti à la main. Puis le bâchage, en fait, c'est quand même le top, quoi.
Et donc t'as ouvert à la main les premières planches?
Ouais. Un peu l'horreur.
Donc l'utilisation de la bâche dès le départ.
Ouais. C'est un bon choix, la bâche.
Ok, il y a d'autres choses que tu devrais faire différemment avec tes 2 années d'expérience?
Prévoir un peu d'eau dès le début, ouais. Ça peut être pas mal, parce que l'eau, sans eau, on va pas très loin, en fait. Donc ça,
C'est un autre point clé lors de
une belle
l'installation.
galère pendant les 2 dernières années, c'était pas d'eau, quoi.
Ok, donc ça c'est vraiment dans tes projets alors de
Ouais,
développer
ouais.
ça absolument
C'est
première nécessité.
primordial, ouais.
Ok.
Sans ça, pas de légumes, en fait. Ou très petits.
Est-ce que tu aurais d'autres conseils pour des gens qui démarrent?
Bon, moi, je pense qu'il faut commencer petit. Après, c'est mon choix, mais je l'ai tellement entendu, ce truc de qu'il faut commencer petit et s'agrandir une fois qu'on est prêt. Je l'ai fait, et ça marche, donc voilà. Puis ça permet de faire des erreurs aussi, qu'elles soient
Qui
moins
ont moins des
coûteuses. Voilà.
conséquences moins
Ouais.
grosses.
Voilà. Et puis ça permet de moins courir au début aussi, je crois.
Ouais.
Ça permet déjà de gagner du temps avant de faire ses erreurs, quoi.
J'avais une autre question, en fait, c'est le point financier, genre.
Ouais, que je prévois en fait pour moi, ça va être un salaire de 800 ou 1000 euros, enfin entre 800 et 1000
800
euros
et 1000
par
par
mois.
mois.
Ce qui implique un chiffre d'affaires de 22 000 euros, je crois, plus ou moins.
Ok.
Voilà, donc ça, c'est ce qui me paraît bien, parce que j'ai pas envie de travailler non plus à 80 heures semaine, comme il y en a beaucoup qui le font.
Et donc ta philosophie là-dedans, c'est de vraiment limiter toutes tes charges.
Ouais, toutes mes charges.
Toutes tes charges et
Donc,
l'investissement minimal.
ouais. Bon, là, pour le moment, c'est un motoculteur de serre et c'est parti, quoi.
Et un peu
Il
de
n'y a pas
terreau
besoin
à
de plus,
semis,
voilà,
voilà.
un peu de terreau, la semence qui coûte assez cher. Mais du coup, il
Ça,
n'y a
c'est ton
pas
plus gros
de.
poste, alors, la semence dans tes charges.
Ouais. Mais bon, c'est 500 euros sur l'année, c'est pas non plus excessif. Il y a une partie de la semence que je fais moi-même. Le terreau coûte cher aussi.
Ok.
Mais c'est tout. Après, l'essence du motoculteur, vu qu'il tourne jamais, ça va. Et je l'utilise de moins en moins, donc.
Raconter les charges sociales aussi alors
Ouais,
pour la
ça va être le
suite.
plus cher en fait.
Ouais.
Ça va être c'est quoi, 750 tous les 3 mois, donc
Ouais, au début c'est 87, enfin si tu
en
démarres en complémentaire,
complémentaire,
c'est
ouais.
87
Ouais.
tous les 3 mois.
Après, on passe à 723, je crois.
Ouais, c'est ça. Ça.
3-4. C'est les plus grosses charges, ouais.
Et il faut prévoir le fonds de roulement pour la TVA aussi, du coup,
Ouais.
qui a déjà.
Ouais. Après, j'ai pas encore calculé tout ça, mais je sais que ça rentre dans les chiffres des 22 000, on va dire qu'il y en a 10 000 qui partent pour les charges en général. Voilà, l'entretien de la camionnette et compagnie, quoi. Il y a tout le reste auquel on ne pense pas forcément, mais c'est là.
Et pour conclure, j'aimerais bien te poser une question que je posais à chaque épisode. C'est quelle variété de légumes t'as particulièrement marqué?
La variété ou le légume?
Variété.
La variété. Je crois que c'est une tomate cette année, c'était la Cassalis folie.
Cassalis folie?
Cassalis folie, ouais. C'est une
Ok.
tomate allongée et bigarrée, donc genre jaune et rouge.
Ok.
Assez sympa.
De quel semencier?
C'est pas un semencier, c'est un particulier ici en Belgique.
Ok.
Voilà.
Tu l'as eu comment?
Le mec. Donc le site du mec, c'est le conservatoire de la tomate, un truc comme
Ok.
ça. Et donc il a des centaines de variétés. J'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé là-dessus et ça m'a plu.
Non,
Donc voilà,
vraiment.
on peut les acheter quand il a du stock.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était une chouette première interview. À bientôt pour la suite.
C'était Microferme, un podcast animé par Joachim Demeester et enregistré par Marie-Anaïs Simon.